RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. On vient de parler de cette incertitude. Hein. Et ce sont souvent les jeunes d'ailleurs qui sont concernés par cette incertitude quand ils doivent préparer leur rentrée scolaire, quand ils cherchent un premier emploi ou qu'ils ne savent pas vraiment où ils seront à la rentrée. Mais pourtant, pour tous ces jeunes, et je vais généraliser, bien sûr, cette incertitude n'est pas synonyme de temps mort, puisqu'on peut s'occuper assez facilement. On va prendre un exemple jusqu'à 11h, celui des chantiers bénévoles qui rencontrent un grand succès partout en France. On va en discuter avec nos invités et avec vos témoignages. Connaissez-vous des organismes ou des associations qui organisent des chantiers bénévoles? Est-ce que vos enfants ou petits-enfants ont déjà participé à ce genre de chantier? Ou à l'inverse, avez-vous accueilli un chantier chez vous? Bref, vous avez de quoi témoigner au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et comme tous les mercredis, on parlera du patrimoine religieux. Tiens, c'est ça aussi une forme de chantier. C'est Jacques de Chauvelin de la sauvegarde de l'art français qui nous racontera l'histoire d'une redécouverte assez insolite en Normandie. Une toile perdue depuis un siècle a été retrouvée dans une église. On verra ça en toute fin d'émission à 10h55. Et pour nous accompagner jusqu'à 11h, on a le plaisir d'accueillir deux invités. Bonjour Gladys Angers.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RCF. Vous êtes chargé de mission volontariat aux Compagnons Bâtisseurs. Bonjour François Berthe.
Bonjour.
Vous êtes coordinateur des chantiers au Club du Vieux Manoir. Pourquoi ce nom, François, Club du Vieux Manoir, ça vient d'où?
Alors, Club du Vieux Manoir, c'est le nom qui a été décidé par le fondateur de l'association, Maurice Duton, dans les années 50, en 52, lors de la création. Mais on a perdu l'origine, la raison de ce nom. Il est resté, ça fait 70 ans que l'association s'appelle comme ça. On aime beaucoup notre nom, même si on ne sait plus d'où ça vient.
Voilà, le Club du Vieux Manoir. Alors, j'aimerais qu'on commence par définir vraiment ce qu'on entend par chantier bénévole, parce que justement, on entend d'autres noms comme camp chantier, chantier volontaire, chantier bénévole. Comment on fait le tri dans tout ça, François Berthe? Quel est le bon vocabulaire à utiliser?
Alors, pour les chantiers de jeunes, il y a plusieurs associations qui ont chacun leur vocabulaire. C'est pour ça qu'on a aussi cette diversité de mots. Nous, on utilise le mot camp chantier ou chantier de jeunes bénévoles, puisque on accueille des jeunes qui sont bénévoles pendant leurs vacances. Et on utilise le mot camp chantier parce que ce séjour, c'est à la fois un camp et un chantier. Donc il y a l'aspect vie de groupe, vivre ensemble, et l'aspect réalisation commune par le chantier.
Voilà, et c'est ouvert aux jeunes, et c'est ce qu'on va pouvoir découvrir dans cette émission. Gladys Angessy, on découvre là aussi un peu plus l'association Les Compagnons Bâtisseurs. Elle existe depuis très longtemps, depuis 1957 à peu près, dans des circonstances particulières, si on remonte quelques années en arrière.
Oui, tout à fait. En fait, c'est les années 50, c'est vraiment les années des créations des associations de chantier comme le Club du Vieux Manoir, Concordia et du coup aussi les Compagnons Bâtisseurs, parce que c'était vraiment l'époque de la reconstruction, et donc les jeunes s'autogéraient et géraient leur chantier, créaient leur chantier, et depuis c'est resté vraiment dans les associations d'intégrer les jeunes sur les chantiers.
Alors vous accueillez des volontaires et des bénévoles dans cette association. Vous avez aussi des salariés. Les volontaires, justement, est-ce que vous pourriez nous les présenter? Quel est vraiment leur statut?
Ouais. Alors, du coup, c'est un peu contrairement, par exemple, au Club du Vieux Manoir qui accueille surtout des bénévoles. Nous, on accueille principalement des jeunes en volontariat, soit de service civique, soit de corps européen de solidarité. Donc, c'est des jeunes qui viennent d'Europe, du Maghreb, de Turquie, par exemple. Et donc ça veut dire que c'est des jeunes qui sont sous contrat, ils perçoivent une indemnité en échange de leur engagement de 6 à 12 mois en moyenne.
Et pourquoi est-ce qu'ils font ça d'ailleurs, ces jeunes? Est-ce qu'ils ont du temps? Est-ce qu'ils ont de la motivation? Alors ça on l'imagine, ou alors ça rentre dans leurs études peut-être?
Tout à fait, de toute façon nous c'est vraiment le premier critères en fait de recrutement, disons, c'est la motivation. On n'engage pas sur les compétences. Ils peuvent ne pas en avoir du tout de compétences techniques ou sociales, peu importe, du moment qu'ils sont motivés pour rejoindre le projet, qu'ils adhèrent aux valeurs, bien sûr, de l'association, de solidarité, de respect, de dignité aussi. Voilà, et ils s'engagent. Il y a plein de raisons, en fait. On a des profils très, très différents. On a, par exemple, des décrocheurs scolaires, mais on a aussi des jeunes plutôt profil Bac plus 5. C'est très mixte. Et du coup, les motivations sont assez différentes. Mais souvent, on retrouve, et je trouve particulièrement dans la période post-Covid, il y avait beaucoup de jeunes un peu perdus, qui savaient plus où trop où aller, surtout après cette période qui avait été vraiment dur pour eux, quoi. On sent que beaucoup l'ont mal vécu. Ça a été vraiment des moments d'anxiété aussi, et d'isolement social. Et du coup, de faire un volontariat aux Compagnons Bâtisseurs ou dans d'autres associations de chantier, ça permet vraiment de retrouver une certaine place dans la société, prendre un peu de temps aussi pour chercher qui on est, ce qu'on veut faire, et puis explorer un domaine qu'on connaît pas vraiment, le domaine du chantier et aussi de la solidarité.
François Berthe, que constatez-vous du côté du club du Vieux Manoir, vous, depuis la pandémie? Est-ce que vous êtes complètement en phase avec ce que nous dit Gladys?
Oui, tout à fait. Il y a un avant et un après-Covid pour les jeunes qui viennent. On sent que ça les a durement touchés. Nous, on accueille des jeunes à partir de 14 ans, donc on a essentiellement des 14-18 ans, donc fin de collège, lycéen, qui recherchent dans le chantier aussi cette rencontre sociale. L'envie de rencontrer d'autres personnes, l'envie de s'engager, c'est important, vous l'avez dit. On a des jeunes qui ont envie de faire quelque chose de leur main, faire quelque chose de concret, faire quelque chose non pas pour eux, mais pour l'ensemble de la communauté, pour l'ensemble des personnes, mais aussi des jeunes qui ont envie de passer des vacances un peu différentes, envie de se lancer à l'aventure, de vivre en plein air, dormir sous tente, puisqu'on fait des camps sous tente, de rencontrer d'autres jeunes qui viennent pas forcément de leur cercle habituel. Et ça, on le sent bien, ça fait partie de leur demande. Et ouais. C'est un bon moment, bien sûr, et ils passent un bon moment.
Mais que fait-on dans ces chantiers bénévoles, ces camps chantiers, hein, François, pour reprendre plutôt votre vocabulaire? Qu'est-ce qu'on restaure? Est-ce que c'est forcément une maison? Ça peut être un appartement? Est-ce que ça peut être une église également?
Alors là, chaque association a ses différences. J'interviens chacune sur son type de chantier, mais effectivement, c'est du chantier. Donc, nous, on intervient sur des monuments historiques. Donc, ça va être un lavoir, une chapelle, une église, un château. Ça va être un calvaire, ça va être un petit chemin pavé dans un centre-ville. On intervient toujours sur des monuments à la demande d'une collectivité. Donc généralement, c'est une commune qui va faire appel à nous, une structure qui, comme une association, qui va, une association historique locale, qui va demander à voir si on peut créer une activité autour de leur monument et restaurer ce monument. Donc le lavoir de la commune est en mauvais état, le centre-ville est moins présentable comme ça. La commune cherche des solutions pour sauver ce patrimoine, mais cherche aussi une activité qui va permettre de mettre en valeur ce patrimoine pendant une période, donc pendant le séjour, pendant le camp chantier. Il va y avoir une activité autour de ce patrimoine. Ça va pas juste être quelque chose de clos, une entreprise qui fait des travaux, ça dure plus longtemps, ça s'étale sur plusieurs années, et on a des jeunes qui viennent, des jeunes qui font des activités le soir, des jeunes qui font vivre ce village, ce centre-ville pendant 15 jours, un mois, pendant l'été, effectivement. Donc c'est concret, c'est du chantier, maçonnerie, taille de pierre, architecture, archéologie, débroussaillage, tout ça sans avoir les compétences, comme le disait Gladys, mais en ayant la volonté de découvrir et d'apprendre.
Oui, parce que ce sont quand même des savoir-faire, hein, François Berthe. Comment sont-ils accompagnés, ces jeunes? Est-ce qu'ils sont accompagnés par des professionnels, par des formateurs?
Bien sûr, on accueille des mineurs, donc déjà il y a un encadrement pédagogique, oui. On les laisse pas seuls, ils sont encadrés tout le temps du séjour par des gens qui ont été formés pour justement prendre soin d'eux, animer le chantier, assurer toutes les sécurités du groupe et le fonctionnement du groupe, et ils sont effectivement accompagnés par des professionnels de l'animation et du bâti qui vont leur passer le geste, tout simplement la transmission des outils, de leur utilisation, de la sécurité en chantier, de la passion aussi de ce savoir-faire, du plaisir de construire de ses mains, de voir un impact de son action sur la société, sur un monument.
Donc on comprend, François Berthe, que pour le club du Vieux Manoir, c'est plutôt de la restauration de monuments historiques. Pour vous, Gladys Anger, et pour les Compagnons Bâtisseurs, c'est quand même un peu différent.
Oui, tout à fait, parce que aux Compagnons Bâtisseurs, le cœur de métier, c'est l'autoréhabilitation accompagnée. Donc ça veut dire que les salariés des Compagnons Bâtisseurs, accompagnés d'un ou d'une volontaire, vont en fait chez les habitants. En général, c'est des habitants qui ont des difficultés économiques et ou sociales, et ils vont aller rénover leur appartement. Mais ils vont pas aller les rénover comme des prestataires. L'idée, c'est vraiment d'impliquer l'habitant dans la rénovation de son logement. Et donc le volontaire a ce rôle de faire un peu la médiation et d'être aussi un peu le miroir de l'habitant, parce que comme l'habitant, il connaît pas forcément les gestes techniques que va leur enseigner l'animateur ou l'animatrice technique. Et ensemble, ils vont apprendre à rénover, à faire de la peinture, à faire de la menuiserie, de la petite plomberie, enfin voilà, tout un ensemble de gestes techniques.
Et ce qu'il faut bien comprendre également, et ça c'est vraiment intéressant dans les Compagnons Bâtisseurs, hein, Gladys Anger, c'est que l'habitant participe également au chantier avec les jeunes, avec les formateurs, les professionnels.
Ouais, tout à fait. C'est très important de mobiliser l'habitant dans la rénovation de son logement. C'est une remise en action aussi pour beaucoup, et c'est aussi une manière de renouer le lien social pour beaucoup de personnes qui sont souvent isolées. Et non seulement on implique l'habitant dans la rénovation du logement, donc comme je le disais, avec ce rôle qu'a le volontaire aussi de faire un peu la médiation et de faire un peu ce lien social aussi avec l'habitant, mais aussi sa famille. Quand on peut, on demande aussi à ce que la famille se mobilise pour participer à la rénovation du logement, et comme ça permet de créer un groupe qui se mobilise pour rénover, et c'est vraiment une activité valorisante pour tout le monde.
Qui peut participer aux Compagnons Bâtisseurs, Gladys ?
Alors, on peut participer en tant que bénévole, et on fait aussi des chantiers. Nous, on les appelle les chantiers solidaires. C'est plus ponctuel, c'est plus événementiel. Là, les prochains, ce sera en région parisienne à la fin du mois de juin, avec les Compagnons Bâtisseurs Île-de-France qui vont faire 6 chantiers répartis sur toute la région parisienne. Donc là, il y a des bénévoles qui peuvent contacter les Compagnons Bâtisseurs Île-de-France s'ils souhaitent participer à ces chantiers. Il y aura des volontaires qui y participeront et qui seront encadrés par des encadrants techniques, des animateurs techniques. Voilà, il y a plein d'activités. Construction d'un escalier, construction de mobilier pour l'espace public, voilà. Et sinon, pour les volontaires qui souhaitent s'engager sur une durée plus longue, donc entre 6 mois et 8 mois pour les volontaires français, et entre 6 et 12 mois pour les volontaires internationaux, là on est vraiment pour les volontaires en service civique, on est cadré par le cadre légal de l'agence du service civique, donc c'est entre 16 et 25 ans, même presque 26 ans pour les jeunes Français qui souhaitent devenir volontaires aux Compagnons Bâtisseurs.
Dans les deux cas, hein, que ce soit pour les Compagnons Bâtisseurs ou pour le club du Vieux Manoir, on entend l'indispensable motivation, hein, François Berthe, des jeunes. Il faut vraiment qu'ils soient motivés, sinon ça peut être légèrement compliqué à encadrer, vous pensez ?
Alors oui, on parle de motivation. On a besoin que le jeune sache où il va. On est sur des activités qui sont particulières, hein. Il faut avoir envie de faire cela. Un chantier, ça demande une implication. C'est pas une colonie de vacances classique avec plein de différentes activités de loisirs. On est sur vraiment une implication dans une réalisation, donc l'envie de faire du chantier, tout simplement. Mais évidemment, comme nous on accueille des jeunes de 14-18 ans, la motivation n'est pas forcément toujours la première caractéristique pour ces jeunes de cet âge-là. Ils ont envie de voir, de découvrir, ils ont envie aussi de passer un bon moment. Et donc, le fait de vouloir juste savoir, essayer, est suffisant. On a parfois des parents qui sont prescripteurs, hein, qui invitent leur jeune à découvrir cette activité. Si le jeune n'est pas complètement opposé, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment sur une position tout à fait négative sur l'idée, mais simplement de qu'il a envie de voir ce que c'est, ce que ça donne, c'est suffisant, puisque on se rend compte, hein, nous, alors ça fait 70 ans qu'on fait ça, que ben, l'ambiance qui se dégage de cette action collective, eh bien, permet de aux jeunes vraiment qui sont un petit peu dubitatifs de prendre plaisir à et de s'inscrire dans l'action.
Et dans un instant, on va voir un peu bah, comment se déroule une journée type, alors que ce soit pour les compagnons bâtisseurs ou pour le club du Vieux-Vanoir. Et puis surtout, bah, qu'est-ce que ça leur apporte à tous ces jeunes qui participent au chantier bénévole, au camp chantier. On va continuer d'en discuter dans un instant avec vous deux, Gladys Angers et François Berthe. Et en attendant, vous nous appelez au 04 72 38 20 23. Si vous connaissez des organismes ou des associations qui organisent des chantiers bénévoles, on a envie de les connaître. Et si vos enfants ou petits-enfants ont déjà participé, c'est la même chose. À tout de suite. You got a new life. Am I bothering you? Do you wanna talk? We share the last line. Then we drink the wall till we wanna talk. I go round and round. Harry Styles sur RCF, c'était Satellite. Hein.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Avec Gladys Angers, vous êtes chargée de mission volontariat aux compagnons bâtisseurs et François Berthe, coordinateur des chantiers au club du Vieux-Manoir. Alors justement, entrez-nous dans les coulisses un peu, François, du club du Vieux-Manoir. Comment se déroule une journée type lors d'un camp chantier ?
Alors les chantiers, les camps chantiers, c'est 15 jours sur un site à camper sous tente. Pour des jeunes qui, pour la plupart, enfin pour la majorité, découvrent l'activité. On a évidemment des anciens, mais souvent une grande partie de nouveaux qui découvrent. Alors donc dans ce cadre-là, on crée un programme qui varie, qui est évolutif au cours du séjour, avec pour objectif dans les premiers jours de permettre aux jeunes de se sentir bien où il est, de découvrir les autres membres du groupe, découvrir l'activité, découvrir les lieux pour d'abord trouver sa place et s'en sentir à l'aise, découvrir l'activité, les techniques à aborder, puis ensuite se mettre à l'action dans ces techniques. Donc on est sur des activités, des journées qui vont être matinées et après-midi consacrées aux activités de chantier. Ce qui peut paraître comme ça important, mais on n'est pas du tout sur des activités de travail. Et c'est un mot que vous voyez qu'on ne prononce pas.
C'est vrai.
On est sur des activités de chantier, on fait du chantier, on fait une activité bénévole, mais on fait pas du travail. Et ça n'est pas que de la sémantique, c'est vraiment une façon d'envisager ce temps-là de façon différente. On n'est pas sur on n'est pas sur des rapports de quantité abattus, on n'est pas sur des rapports de productivité, on n'est pas sur ça ne fait pas partie de notre vocabulaire. On a un objectif à atteindre, on essaie de l'atteindre ensemble, mais il est mesuré pour des jeunes qui découvrent une activité. Donc on va avoir une journée où après le petit déjeuner en commun, bien sûr, on se rend au chantier pour, par exemple, le premier jour découvrir le bâtiment, le lieu, connaître son histoire, faire le tour du monument, expliquer notre projet d'intervention et lui redonner sa place au sein de l'histoire de ce site, puisqu'on n'est jamais qu'un maillon dans sa chaîne de bâtisseurs restaurateurs sur des monuments qui ont parfois plusieurs siècles. On a pour objectif de restaurer, nous, notre génération, ce patrimoine, de le donner à la génération suivante, si possible en meilleur état encore que ce qu'on a trouvé. Donc on leur explique cette action-là, cette volonté-là. Après, on prend les outils, le vocabulaire, on s'entraîne à celui-ci, avec de nombreuses pauses, des discussions, bien sûr. On peut, mettre de la musique sur le chantier, parce que les jeunes aiment bien, on aime bien aussi avoir un peu un fond musical quand on fait notre activité. Et on va faire ça le matin. L'après-midi, alors maintenant, en été, juillet, août, on est obligé de prendre en compte quasiment systématiquement la canicule. Donc après le déjeuner commun, on va faire une grande sieste, par exemple, grande sieste pour tout le monde, reprendre l'activité, s'il fait très chaud, seulement vers 16h, faire un peu de chantier, le goûter, les douches sont le soir, et ensuite, après le dîner, une veillée commune, un jeu, une promenade, une découverte. Ça, c'est les journées de chantier. Et les journées autres, puisqu'on fait pas que du chantier sur 15 jours, les jeunes viennent sur une région, un endroit qu'ils connaissent pas, on va aller se promener, découvrir la région, rencontrer les habitants, voir s'il y a quelque chose à visiter à côté. On essaye d'éviter les activités classiques, telles que aller au cinéma, ce genre de choses, ce qui est très bien, mais on essaie de faire autre chose pendant ces moments-là, de faire, par exemple, un petit bout d'un GR, d'un sentier de randonnée, ou d'aller à la fête du village, s'il y a la fête du village qui a lieu à ce moment-là.
Je trouve important ce que vous dites, François Berthe, et cette notion de travail qui ne doit pas vraiment être présente, Gladys Angers. Pourquoi c'est important, ça?
Parce que c'est du volontariat. Enfin, du coup, au club du Vieux Manoir, c'est du bénévolat, mais on retrouve des notions similaires dans le cadre du volontariat. On fait pareil, très attention de ne pas parler de travail, parce que les jeunes s'engagent. Donc, on parle d'un engagement de service civique, par exemple. C'est-à-dire que ils perçoivent une indemnité, mais c'est pas un salaire. Donc, c'est un engagement dans lequel vraiment le jeune, en échange justement des activités, de l'engagement qui va faire, nous, en tant qu'association, on lui doit aussi de vivre une expérience qui soit vraiment riche, qui lui permette de grandir et justement de trouver des nouveaux repères aussi. On est dans le cadre du volontariat, on n'est pas dans une perspective forcément d'insertion professionnelle. On est là aussi pour permettre aux jeunes de se trouver et d'avoir ce temps pendant 6, 8 mois, 12 mois où il peut tâtonner, expérimenter plusieurs choses avoir cette liberté de prendre le temps de se trouver, ce qui n'est pas toujours le cas pour les jeunes qui sont très cadrés dans le cadre de la scolarité et après des études. C'est un endroit d'expérimentation aussi, le volontariat.
En tout cas, c'est une expérience assez unique, on l'entend, auquel participent de plus en plus de jeunes. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a une idée un peu, Gladys, de l'évolution de ces chantiers? Est-ce que beaucoup plus de jeunes chaque année participent à ce genre de chantier, d'activité?
Malheureusement, depuis le Covid, l'année dernière, ça a été un peu une année noire au niveau du volontariat, en tout cas sur le volontariat français. Pour les volontariats internationaux, ils sont toujours très volontaires. Ils veulent vraiment participer, oui, venir en France et avoir cette expérience-là. Pour les jeunes français, c'est plus compliqué. Hein, mais ça s'explique. C'est au niveau national. Hein, c'est pas que les compagnons bâtisseurs qui ont cette situation-là. C'est toutes les associations ont du mal à trouver des volontaire désormais, notamment à cause de, du Covid qui est passé, la crise économique et quand on perçoit une indemnité de 600 euros par mois, parfois c'est pas possible de vivre avec ça. Donc on comprend aussi que des jeunes vont plutôt aller vers des emplois, notamment des emplois qui sont actuellement désertés dans la restauration, etc. Et c'est dommage parce que du coup ils se privent aussi d'une expérience différente et qui est souvent un moment charnière dans leur parcours.
Ouais, vous pensez qu'on est dans une période un peu de flou, François ?
Alors, on a un peu l'effet inverse, nous, mais à cause de l'âge des jeunes, puisqu'ils ont 14 ans quand ils viennent sur les chantiers, on a une vraie demande. On a une vraie demande de revivre un petit peu sur ces activités de plein air, de sortir de chez soi. Mais effectivement, oui, les cartes ont été complètement rebattues dans le monde du bénévolat, du volontariat suite au Covid. Hein. Il y a des changements très importants qui s'opèrent. Donc, on voit que c'est différent d'avant, qu'il faut proposer des choses un peu différentes parce que le fond, il est toujours le même. Vivre une expérience de vie, faire quelque chose de différent, partir à l'aventure, se découvrir soi-même. On est sur des âges importants pour se découvrir qui on est, ce qu'on est capable de faire, se sentir fier de capable de faire de belles choses. On a vu vraiment cette différence qui est présente dans les gens qui viennent, avec des profils qui sont un peu différents d'avant Covid, mais qui restent des jeunes qui veulent participer à un chantier. On reste sur une activité qui, même si elle est très ancienne, est toujours d'actualité. Oui.
Donc vous êtes très complémentaires, tous les deux. C'est très bien pour parler de ces chantiers bénévoles et dont d'ailleurs vous avez la parole, je le rappelle, au 04 72 38 20 23 si vous avez déjà participé à des chantiers de ce type, ou alors vos enfants ou petits-enfants, venez nous raconter tout cela, comment ça s'est passé. Et puis si vous connaissez des associations, des organismes comme celles qu'on présente ce matin, là aussi on a envie de les connaître au 04 72 38 20 23. Gladys Angers, je rappelle que vous êtes chargée de mission volontariat aux Compagnons Bâtisseurs. Moi j'entends quand même, à travers tout ce que vous dites depuis le début de cette émission, qu'il y a un vrai engagement politique, sociale en tout cas pour les compagnons bâtisseurs, liés à l'habitat, au logement. C'est toute personne doit disposer d'un logement décent. C'est pour ça qu'aussi vous organisez tous ces chantiers.
Oui, tout à fait. C'est l'association est vraiment mobilisée dans la lutte contre le mal logement. La situation est plutôt en train de s'aggraver en France. Donc il y a un vrai engagement aussi de la part de l'association, mais depuis le départ, hein, de permettre aux personnes qui ont des difficultés économiques et sociales d'accéder ou de retrouver un logement digne, parce que une fois que le logement, l'endroit de l'intimité on peut en être fier parce qu'on l'a rénové, parce qu'on l'a fait en groupe. Il y a vraiment aussi un sens profond de dignité qui est redonné à la personne qui a participé à ces activités. Et souvent aussi, ça s'accompagne justement d'un lien social qui se renoue. On voit par exemple, du coup, les gens vont aller plus facilement parler à leurs voisins parce que les voisins ont vu le chantier sur le palier, et ça crée des nouveaux liens sociaux. Et ça permet aussi parfois de leur permettre de s'investir après dans leur quartier, dans une autre association ou dans d'autres. Ça pousse vers l'extérieur. Et ça sort du repli sur soi.
Et notez d'ailleurs que demain, je me permets de faire un peu de pub, dans Je pense, donc j'agis, on parlera notamment de la crise du logement en France avec une réaction du gouvernement, c'était avant-hier. On aura l'occasion d'en discuter demain pendant 2h, de 9h à 11h. On marque une toute petite pause, on se retrouve dans un instant, toujours avec vous Gladys et François, et vos appels au 04 72 38 20 23. À tout de suite. Avec Gladys Angers des Compagnons Bâtisseurs, cette association qui œuvre en organisant des chantiers, notamment pour les personnes qui sont peut-être en situation de précarité ou dont le logement n'est pas vraiment décent. Notre deuxième invité, c'est vous, François Berthe, du Club du Vieux Manoir. Alors vous, c'est plutôt des chantiers pour les monuments historiques. Justement, comment sont sélectionnés les différents monuments les différents chantiers, parce que quand on se rend sur votre site internet, vous avez déjà contribué déjà à plus de 250 monuments, à la restauration de 250 monuments. Comment sont sélectionnés chaque année les différents chantiers?
Alors, on a des chantiers qui sont présents depuis quelques années. On intervient par exemple sur le château fort de Guise depuis 70 ans. C'est une citadelle de 17 hectares, donc il y a encore au moins 70 ans d'intervention dessus avant d'avoir terminé. Et encore, peut-on terminer un monument de cette taille-là? On essaye sinon pour les monuments saisonniers, les sites saisonniers, de trouver des sites d'abord qui appartiennent à des collectivités. L'objectif, c'est que l'action bénévole, elle profite à tous. Donc, qu'il soit ouvert au public, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, la fontaine sur la place du village, ça peut être le petit château qui est ouvert aux visites, ou bien juste ouvert comme ça aux promeneurs. Ça, c'est un critère indispensable pour nous, c'est que le travail des bénévoles puisse profiter au plus grand nombre. Ensuite, on va chercher un site sur lequel les jeunes puissent vivre une aventure, donc un site qui a pour eux un peu de magie, hein, un vieux château avec des souterrains, c'est magique, qui est besoin de notre intervention aussi, hein, donc on est souvent sur la cristallisation de ruines, de vestiges, donc stopper les dégradations, et bien sûr avec des activités qui soient à la portée de jeunes qui découvrent la maçonnerie par exemple. Donc tous ces critères nous permettent de faire un premier choix, et ensuite on essaie de faire une répartition géographique pour que tout le monde dans tous les hexagones puisse profiter du chantier et d'avoir un chantier pas trop loin de chez lui.
Ouais, pareil pour vous, hein, Gladys Sanger, comment ça se passe pour les compagnons bâtisseurs? Et on le rappelle, hein, on peut à la fois se proposer pour devenir bénévole, pour devenir volontaire, et bien sûr on peut aussi également proposer un chantier.
Nous c'est donc il y a les chantiers à l'année et sinon c'est plus des chantiers qui vont être beaucoup dans l'espace public. Comme je disais, chaque année au mois de juin on fait nos chantiers solidaires et c'est souvent par exemple mobilier urbain. Donc par exemple l'année dernière c'était à Nantes dans le quartier de Beautière-Pinsec, on a créé des jardinières qui étaient à hauteur à peu près de la taille pour notamment des personnes âgées qui ne pouvaient plus jardiner. Vraiment le projet avait été bien pensé par l'équipe qui est présente sur place toute l'année pour que ça réponde aux besoins des habitants de ce quartier vraiment particulier parce que le jardin était complètement abandonné. Du coup ça a été aussi créé en partenariat avec une asso de jardinage justement pour faire vivre après le lieu, que ce soit pas juste comme ça, débrouillez-vous pour vraiment accompagner les habitants dans l'investissement aussi de l'espace public.
Voilà un peu comment sont sélectionnés ces chantiers. Chantiers à la fois pour locataires et propriétaires.
Oui, alors nous c'est principalement la majorité des chantiers sont quand même des locataires parce qu'on travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux notamment, mais on peut être sollicité aussi par des locataires qui le souhaitent. Et on a aussi une petite partie de projets de propriétaires occupants, donc c'est des propriétaires qui ont peu de ressources mais qui sont quand même propriétaires et qui vont avoir des habitats assez délabrés. Et donc là ça va être un autre type de travaux, on va avoir des travaux plus lourds de toiture, de charpente, etc.
Et est-ce que c'est gratuit pour celles et ceux qui voudraient que leur habitat soit restauré?
Alors il y a une participation qui est demandée, mais c'est toujours en fonction des ressources. C'est une petite participation, c'est entre 10, c'est à peu près 10% en fait du montant des travaux. Et si c'est pas possible, si vraiment c'est pas possible, de toute façon il y a une équipe, il y a toujours des accompagnants sociaux aussi aux compagnons bâtisseurs, des animateurs, animatrices habitat qui sont là aussi pour préparer les chantiers chez les habitants avec eux. On n'arrive pas chez eux directement avec la boîte à outils, hein, évidemment. Ça se prépare en amont parce que c'est souvent dur aussi pour ces gens d'inviter des personnes dans leur intimité comme ça. Donc il y a tout un travail de préparation et d'accompagnement social aussi tout au long du chantier.
François Berthe, vous me voyez venir, hein, restaurer un petit appartement ou le réhabiliter et puis restaurer un château. À mon avis, on n'est pas dans le même budget. Comment vous arrivez à financer tous ces chantiers pour le club du Vieux Manoir?
Alors, on a trois sources de ressources, justement, qui sont d'abord les aides d'État, hein, puisque le programme Chantier de Jeunes est aidé par le ministère de la Jeunesse et des Sports et par le ministère, bon, tout, pour nous, on intervient sur le patrimoine par la DRAC, donc les ministères de la Culture. Il y a d'autres sources pour d'autres associations aussi, hein, en fonction des projets réalisés. Donc on a cette aide-là qui nous permet de financer le fonctionnement de ces chantiers. On a nos ressources propres en tant qu'association, qui sont dues à notre activité, hein, puisqu'on par ailleurs on gère certains des monuments qu'on a restaurés en ouverture au public, et on a une participation de la part des jeunes qui viennent. On prend en charge un jeune mineur donc pendant 15 jours. Ça nécessite un encadrement fort et une présence permanente, alimentation, hébergement, etc. Donc il y a un prix pour participer au chantier.
Alors en tout cas, on l'entend, c'est une aventure, que ce soit pour les compagnons bâtisseurs ou pour le club du Vieux Manoir, une aventure peu commune, j'ai envie de dire, François Berthe, que vous essayez de transmettre. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important pour le club du Vieux Manoir, de finalement d'arriver à raconter tout ce qu'il s'est passé depuis sa création en 1952.
Oui, on parle d'aventure parce que, eh ben d'ailleurs, on le voit bien depuis tout à l'heure, on parle des jeunes, on parle pas des monuments.
C'est vrai.
Et c'est ça qui est important pour les associations de chantier de jeunes, ce sont les participants, ce qu'on peut leur apporter à eux. Vivre l'aventure au club du Vieux Manoir, c'est vivre pendant 15 jours dans un monument particulier, un château, une ancienne abbaye, à côté d'un lavoir, etc. Donc dans un espace dont on n'a pas l'habitude, vivre sous tente aussi, en groupe, en collectivité, donc quelque chose qu'on n'a pas l'habitude aussi, vivre ensemble, partager les tâches de la vie quotidienne, qui fait la vaisselle aujourd'hui, qui fait la cuisine, etc. Pour les autres, donc on vit ensemble, on apprend à se connaître, c'est une aventure aussi. Et réaliser des choses qui sont des choses peu communes, qui sont pas des choses de la vie quotidienne. Apprendre à tailler la pierre, poser des pavés, voilà, on n'en fera pas forcément son métier. D'ailleurs, pour la majorité des jeunes, c'est pas l'objectif, mais on l'aura fait une fois. On va découvrir qu'on est capable de faire quelque chose de ses mains. Et l'aventure, c'est aussi passer un moment hors du temps, ensemble, pendant ces 15 jours, on restreint l'utilisation des téléphones, on va faire un petit feu de camp, une soirée, dans le monument ou à côté du monument, qui est un moment magique, et on va, à la fin du séjour, avoir fait quelque chose ensemble, de grand, de beau, qui est là pour perdurer. L'association existe depuis 70 ans, on a des gens qui reviennent. On a la deuxième, la troisième génération d'une famille qui vient, et on a les parents qui reviennent en disant, moi j'ai participé au chantier, ça m'a marqué, ça m'a formé tel que la personne que je suis aujourd'hui, ça a été un très bon souvenir dans ma vie. On a parfois les grands-parents qui sont venus, qui ont fait ça, qui envoient leurs petits-enfants en disant, tu verras, ça, tu vas découvrir des choses, et qui reviennent voir leur chantier, ce qu'ils ont fait. Cette pierre-là, cette rangée de briques, c'est moi qui l'ai posée il y a 50 ans. Et elle est encore là, puisque on intervient, nous, sur des monuments classés monuments historiques. Donc, il y a des critères pour ces monuments, bien sûr. Et ces critères ne sont pas abaissés parce que ceux qui interviennent sont des jeunes ou sont des bénévoles. Mmh. Ils restent les mêmes, des critères de qualité de réalisation, de conformité dans les travaux. Et on reste à ce niveau-là de réalisation. Donc, on est sur de l'exigence de qualité. Et bien, ça aussi, c'est une aventure. Les jeunes viennent, découvrent, se rendent compte qu'ils sont capables de faire. Alors, évidemment, ils ne font pas la même quantité qu'un professionnel. Oui. C'est pas l'objectif. Mais font quelque chose qui est là pour durer et perdurer. Ça, c'est une aventure.
Est-ce qu'il y a une forme de satisfaction, d'après vous, c'est-à-dire le jeune qui voit que le chantier avance bien, c'est assez satisfaisant à voir, à constater, mais même pour tout le monde d'ailleurs.
Pour tout le monde, quand on fait quelque chose de ses mains, quand on réalise quelque chose soi-même, du bricolage à la maison, on est fier de sa réalisation, content de l'avoir fait. Eh bien, c'est la même chose à un peu plus grande échelle, puisqu'on revient sur des plus grands monuments et sur des activités un peu plus lourdes, hein, du gros œuvre parfois. Donc cette satisfaction de l'action accomplie, elle permet de se créer en tant qu'individu. Voilà, pas forcément de se dire je vais être architecte ou maçon ou archéologue plus tard, mais simplement si je veux, si je m'applique à quelque chose, je suis capable de le faire et je réalise quelque chose de concret. Ça c'est important aujourd'hui. Ça a toujours été important, mais ça l'est encore aujourd'hui, d'être fier d'avoir fait quelque chose de concret et de réel.
Oui. Qu'est-ce que ça leur apporte, Gladys Angers, aux jeunes, d'après vous, avec tout ce que vous pouvez constater sur le terrain?
Oui. On retrouve ce sens de justement de réalisation. Ça fait du bien de faire quelque chose de concret en fait. Très simplement en fait de voir que parce que la plupart d'entre eux quand ils arrivent ils ont pas de compétences techniques du tout et du coup ils apprennent plein de choses vraiment en l'espace de quelques mois donc ils sont comme les habitants ils connaissent pas grand chose et ils sont un peu désemparés et puis au fur et à mesure vers la fin de leur volontariat ils gagnent de plus en plus d'autonomie et en fait pour certains quand ils le sentent ils sont aussi en charge justement de chantier, donc il y a vraiment une prise de responsabilité, ils gagnent en confiance en eux. Socialement aussi, c'est très riche parce que ils sont au sein de leurs équipes régionales déjà, c'est assez mixte parce qu'il y a des bénévoles, il y a des salariés, il y a un peu tous les âges confondus. Et puis ils ont aussi l'occasion, au moins une fois par an, de rencontrer des autres volontaires du mouvement lors de rencontres de volontaires qui ont lieu à Paris. On fait ça pendant 3 jours. Ils se rencontrent, ils se réunissent, on fait des ateliers, des jeux d'éducation populaire, et puis aussi juste des moments de cohésion et où ils sortent et ils s'amusent. Et il y a vraiment là ils se rendent compte en fait tu fais la même chose à l'autre bout de la France, voire même dans les dom-toms, et en fait t'as une expérience complètement différente, mais on s'entend super bien et du coup c'est super riche. Ils sortent de là avec des amitiés qu'ils auraient pu jamais se faire ailleurs aussi, quoi.
Comment se passe la relation avec l'habitant qui accueille le chantier, qui accueille donc à la fois les professionnels, bien sûr, les formateurs et les jeunes? Comment ça se passe?
De manière générale, très très bien. C'est du coup justement quand on fait ces petits ateliers où on essaie de leur faire parler de leur expérience de volontariat, que ce soit qu'ils soient là depuis 2 semaines ou 6 mois, c'est une des premières choses qu'ils disent. Le lien avec les habitants pour eux c'est très fort, parce que souvent comme tout le monde en fait ils ont des préjugés sur ouais. Sur les gens, que ce soit d'origine, de social ou quoi que ce soit, et là confrontés au réel, à ces habitants, en plus en rentrant dans leur intimité, ça leur apprend ça permet justement de perdre ses préjugés, quoi, parce que c'est très concret, et puis aussi de vivre des moments de convivialité assez forts. Enfin, on nous raconte, les volontaires nous racontent souvent, en fait ils nous ont invités à manger, c'était incroyable. Ils étaient super reconnaissants, on a passé un très bon moment, et puis ils passent parfois, ça va être quelques jours, parfois ça va être plus long, ça va être quelques semaines, donc il y a aussi des liens qui se créent. Ils sont aussi souvent un peu dans les mêmes quartiers, donc ils commencent à connaître aussi socialement un quartier, et c'est très fort. C'est vraiment humainement très riche, ça les fait vraiment grandir, et puis aussi ça leur apprend à un certain savoir-être, surtout oui. Pour les plus jeunes, qui du coup parfois arrivent et sont qui ont des codes un peu de l'école et qui peuvent être un peu brutaux dans leur manière de parler, et puis justement ils apprennent un peu le tact et tout ça, et de manière générale c'est le meilleur moyen d'apprendre, quoi, c'est oui. En faisant, et parce que aussi ils sont accompagnés par leurs animateurs ou leurs animatrices techniques qui leur disent c'est pas génial, faut pas que tu dises ça comme ça parce que ça pourrait vexer l'habitant et tout, et puis ils sont là c'est vrai, et ça se fait naturellement, et aussi on essaye de on juge pas les habitants et on juge pas non plus les volontaires, on les prend comme ils sont.
Donc ça leur apprend, on l'a dit tout à l'heure, un savoir-faire, ou en tout cas une bonne base en termes de savoir-faire, un savoir-être et une forme d'humilité aussi, d'après vous?
Ouais, tout à fait. C'est vraiment surtout pour même de tous les milieux sociaux, même ceux qui viennent de milieux plutôt populaires, en fait, comme je disais, ils ont des préjugés, et du coup là ils rencontrent les autres, ils sont là, je me trompais complètement, ou au contraire ça peut être des préjugés un peu bienveillants mais un peu paternalistes de la part de classes sociales plus élevées, et là ils se rendent compte un peu d'humilité en fait, ils sont comme nous, et c'est juste que c'est des gens qui ont eu des défis sociale et économique auxquelles j'ai pas été confrontée, et C'est fraîche.
Et on a encore plein de choses à se dire. J'espère qu'on aura le temps d'ici à la fin de l'émission à 11h. On parlera notamment d'une école pratique du patrimoine. François Berne, dans un instant, au sein du club du Vieux Manoir. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23. En attendant, voici un peu de musique avec un très beau duo, Vianney et Kenji Girac sur RCF.
J'ai pas les mots pour éponger ta peine, j'ai que mes mains pour te compter la mienne. J'ai travaillé sans compter mes semaines. J'ai pas volé la vie que je t'apporte, j'ai pas voulu qu'elle étouffe la nôtre. J'ai tout fait pour que le nous l'emporte.
Je te savais simple, mais je te voyais seul. T'étais toute éteinte, pourtant si jeune. Oh pourquoi? Dis-moi pourquoi. Alors j'ai dû ramer pour mieux te ramener. Au fond de mes yeux, j'ai allumé un feu. Oh pourquoi? Rien que pour toi.
Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Et que vienne l'averse, je protège les braises.
Je te fais la promesse. Sepa mi deseo. No puedo mover las nubes, pero puedo ser tu pelaje cuando lo quieras pedirme.
Era solitaria, pensativa. Yo te pensé fuerte y no entendía. ¿Por qué? Dime por qué. Toma mi corazón, toda mi canción. Cuando hará frío, ha hecho un fuego ardiente, ardiente. Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Et que vienne l'averse, je protège les braises.
Je te fais la promesse.
De moi-même, et que vienne l'averse, je protège les braises. Je te fais la promesse d'une vie de lumière, et que tombe la neige, je protège les braises. Je
Le feu, c'était Kenji Girac et Vianney sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Nous sommes en juin 2023, l'été arrive dans quelques jours et beaucoup de jeunes sont encore un peu dans ce temps d'incertitude. C'est pour ça qu'on organise cette émission en prenant l'exemple des chantiers, ces chantiers bénévoles, ces chantiers volontaires qui permettent d'occuper aussi ces vacances. François Berthe, est-ce que les places sont encore ouvertes pour cet été ?
Oui, bien sûr, les inscriptions sont encore ouvertes. On a des places sur certains de nos chantiers qui sont encore disponibles. Je pense notamment au chantier de Tonne, hein, qui est un très beau chantier en montagne et qui vont permettre à des jeunes qui ont forcément, qui connaissent pas forcément la montagne, de découvrir cet environnement-là en été. C'est très joli. Il y a un très beau chemin avec des statues en bois. C'est un calvaire qui est à restaurer. Et on a des places sur ce chantier-là, par exemple.
Et pour les compagnons bâtisseurs, Gladys?
Alors pour les compagnons bâtisseurs, donc on a les chantiers solidaires à Paris, enfin en région parisienne. Donc il y a Sarcelles, Clichy-sous-Bois, Paris, Épinay, Fontenay, Bobigny aussi. Donc là c'est 6 chantiers solidaires. Les bénévoles peuvent s'inscrire en contactant les compagnons bâtisseurs Île-de-France, bénévoles de tous âges, jeunes ou moins jeunes. Et il y a également un chantier la dernière semaine de juin du côté de Cheverny. Là, c'est plutôt pour les bénévoles jeunes qui s'ils souhaitent s'y inscrire. Donc là, c'est pour la rénovation d'un mur ancien près du château de Cheverny, voilà, dans un très très beau cadre.
Voilà, et si vous êtes parents ou grands-parents et que vous voyez vos enfants un peu se tourner les pouces, ben n'hésitez pas à leur donner ces liens, hein, des compagnons bâtisseurs ou même du club du vieux manoir. Alors on parle aussi de patrimoine ce matin, hein, tout est lié. Et le patrimoine, ça tombe bien puisque on en parle tous les mercredis dans Je pense donc j'agis avec notre chroniqueur. Et nous retrouvons Jacques de Chauvelin de la sauvegarde de l'art français. Bonjour Jacques.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Vous nous racontez ce matin l'histoire d'une redécouverte assez insolite en Normandie.
Oui, nous partons dans l'Orne et plus exactement pour le village de Saint-Cornier-des-Landes où effectivement une découverte inattendue a révélé un trésor artistique oublié depuis plus d'un siècle. En fait, c'est une habitante qui est passionnée d'histoire qui est à l'origine de cette trouvaille extraordinaire. Alors qu'elle effectue des recherches sur l'histoire de sa ville, elle découvre qu'en 1906, les habitants inquiets des inventaires réalisés suite à la séparation de l'église et de l'État ont voulu tout simplement cacher les œuvres d'art de leur église parce qu'on craignait à l'époque que le mobilier liturgique et les œuvres d'art des églises soient confisquées. Et donc cette habitante, après des recherches minutieuses, elle a mis la main sur un tableau qui avait été caché par les habitants au-dessus du mécanisme de l'horloge dans le clocher de l'église.
Et cette toile a donc passé 117 ans à l'abri des regards.
Oui, mais 117 ans où elle a été exposée aux ravages de la poussière, de l'humidité du clocher. Et donc aujourd'hui, on ne distingue plus grand-chose de cette toile qui est en fait du XVIIIe siècle et qui est inspirée du Christ et de la Samaritaine de Philippe de Champaigne, peintre très très connu. Alors l'original, qui est une huile sur bois, a été peint vers 1650 et est aujourd'hui exposé au Musée des Beaux-Arts de Caen. Pour notre copie, nous n'avons aucune information sur le peintre, d'autant que, comme je le disais, la toile est dans un état assez déplorable. Elle est entièrement recouverte de chancy, hein, qui est en fait une forme d'altération du vernis qui donne une teinte très blanchâtre à l'ensemble. Et exposée sans aucune protection, elle est aujourd'hui très sale, très abîmée et même déchirée par endroits. Mais la bonne nouvelle, c'est que bien que les couleurs soient très atténuées, une restauration, ou plutôt on pourrait parler ici de sauvetage, est encore possible. Il s'agira de se débarrasser de cette couche superficielle blanche, de nettoyer ces décennies de crasse et les couleurs devraient revenir. Alors les habitants de Saint-Cornier-des-Landes, qui sont très fiers de leur patrimoine, souhaitent aujourd'hui préserver ce trésor artistique et ont lancé une souscription publique avec la Fondation pour la sauvegarde de l'art français, en espérant trouver de généreux mécènes prêts à contribuer à la restauration de cette œuvre d'art qui est assez exceptionnelle. Alors grâce à la mobilisation et au relais des habitants et de la presse locale, on a déjà plus de 4000 euros qui ont été récoltés pour ce sauvetage.
Voilà, une bonne nouvelle pour cette toile perdue depuis un siècle qui a été retrouvée. Hein. Ça aussi, c'est la bonne nouvelle dans une église dans l'Orne. Merci beaucoup Jacques de Chauvelin de la sauvegarde de l'art français, dont on peut retrouver plus d'informations sur le site sauvegardeartfrançais.fr. François Berthe, la sauvegarde du patrimoine, c'est quelque chose qui vous porte, peut-être vous à titre personnel, mais aussi dans l'association, le club du vieux manoir.
Bien sûr, on n'est pas insensible aux vieilles pierres, comme on dit. même si le jeune est au centre de l'association, on intervient sur le patrimoine, en plus souvent du beau patrimoine. Donc on est très fiers de cela, très contents. Et c'est quelque chose qui nous parle beaucoup, quelque chose qui a depuis très longtemps, qui sera, on l'espère, là encore très longtemps après nous. Des monuments particuliers qui ont été construits à différentes époques et qui portent en eux une âme, tout simplement, une force qui est présente quand on vit dans ces monuments.
Et ça me permet de parler de l'école pratique du patrimoine que vous avez créée au sein même du club du Vieux Manoir, qui permet notamment, et vous allez nous préciser tout cela, de former les encadrants sur les chantiers.
Exactement. Tous les encadrants de chantier sont d'anciens jeunes, moi y compris, qui a fait ça, qui a commencé à 15 ans. Mmh. On a, sur le modèle du scoutisme, en fait, pas de secret, on n'a rien inventé. Le fondateur Maurice Dutton était un ancien scout. On a simplement permis aux jeunes qui voulaient continuer à s'engager après avoir vécu plusieurs fois ces chantiers en tant que participants, en tant que bénévoles, de se former pour eux-mêmes permettre aux autres de vivre cette aventure. Donc on a une école de formation qui a été montée dans les années 60 et qui est toujours présente, qui se réunit pendant la Toussaint. On a des stages de formation à la fois pédagogiques et techniques pour ces encadrants qui vont après faire un stage pratique, puis une deuxième session de formation théorique pour faire un deuxième stage pratique. On est un peu sur le modèle du BAFA qui permet d'encadrer les colonies de vacances, mais avec cet aspect patrimoine technique qui vient s'ajouter à celui-ci.
Voilà, l'école pratique du patrimoine. Gladys Angers, on arrive doucement à la fin de cette émission. J'aimerais qu'on parle également des compagnons bâtisseurs. On a évoqué les différentes missions, le côté vraiment social, même politique, on l'a entendu, de cet engagement. Et puis tous ces chantiers auxquels peuvent participer tous ces jeunes. Ça se passe bien, voilà, c'est ce que vous avez dit, les liens sont là. Ces jeunes, est-ce que une fois qu'ils ont terminé le chantier, vous les laissez un peu dans la nature, ou alors il y a un petit suivi quand même?
Alors ça dépend des pratiques des associations, parce que du coup on fonctionne en association régionale, mais de manière générale il y a quand même un certain attachement, même des jeunes en fait, à leur association, parce que quand on a passé 6 mois, 8 mois, 12 mois, voilà, on a créé des liens forts. Et on n'a pas d'école, mais par contre ce qu'on va trouver, c'est qu'il y a un certain nombre en fait de volontaires qui vont devenir salariés après au sein des compagnons bâtisseurs, en devenant animateurs ou animatrices techniques, voire animateurs ou animatrices habitat. Donc là c'est plus sur le volet social. Ou certains autres qui vont revenir en tant que bénévoles, parfois même bénévoles administrateurs dans les instances de gouvernance de l'association. Et ça, c'est forcément très riche, parce qu'ils arrivent avec une expérience concrète aussi du terrain, alors que d'autres bénévoles vont venir d'autres milieux. Ça permet de... Il y a souvent une continuité quand même dans les parcours aux compagnons bâtisseurs, et c'est une grande famille.
Ouais, et pareil pour l'habitant qui a accueilli le chantier. Est-ce qu'il y a un lien qui est créé de manière assez naturelle avec les compagnons bâtisseurs, avec l'association?
Ça dépend un peu des associations régionales, de là où elles sont implantées. Mais quand on remarque par exemple là où sont implantés les locaux des compagnons bâtisseurs, souvent dans des quartiers prioritaires de la ville, les gens chez qui les compagnons bâtisseurs sont intervenus vont après régulièrement passer justement dans les locaux lors des animations collectives qui sont organisées. Par exemple à Rennes, c'est tous les mercredis, voilà, il y a des ateliers qui sont organisés, ça peut être de menuiserie, de réparation des meubles, où sont invités tous les habitants du quartier. Donc ça permet de conserver aussi ce lien qui a été créé, et puis de rencontrer d'autres habitants.
Eh ben merci beaucoup vraiment à tous les deux d'avoir participé à cette émission pour nous parler des chantiers bénévoles. Gladys Angers, je rappelle que vous êtes chargée de mission volontariat aux compagnons bâtisseurs, à retrouver sur le site internet compagnonsbâtisseurs.eu, et le tout au pluriel. Merci Gladys, merci François Berthe également, coordinateur des chantiers au Club du Vieux Manoir, là aussi à retrouver sur le site clubduvieuxmanoir.fr, et on peut retrouver tout cela sur notre site rcf.fr. On mettra tous ces liens. Merci à Pascal, à Amaury, à Catherine qui ont permis la réalisation de cette émission. Demain, je vous le disais il y a quelques minutes, on parlera de la crise du logement en France. Le gouvernement semble s'être emparé du sujet, mais ces annonces sont-elles suffisantes? Bonne question, on ouvrira le débat avec vos témoignages bien sûr demain de 9h à 11h en compagnie de Stéphanie Gallet. Bonne journée à tous, et dans un instant, comme chaque jour, c'est votre programme local.